Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Tout le monde se pose trois questions ces temps-ci. Le tatouinage chez vaccins, c'est qui est responsable? Deux, le couvre-feu, est-ce que ça marche? Et trois, quand est-ce qu'on va déconfiner? Alors, on va poser ces questions-là à l'excellent Patrick Derry. Patrick Derry est analyste en politique publique. Si vous avez un gars à suivre sur Twitter, c'est lui. D'après moi, c'est le meilleur observateur de l'efficacité ou non, de la non-efficacité des mesures sanitaires qui sont prises par nos gouvernements. Il est avec nous. Bonjour, Patrick Derry.
Salut Richard, tu me mets un peu de pression.
non, mais c'est vrai, moi je te suis comme plusieurs, beaucoup des milliers de Québécois, c'est toujours intéressant. Donc on va commencer par la première question, le tatouinage chez vaccins, on sait qu'il va en manquer des vaccins, c'est la faute à qui? Le provincial, le fédéral, Pfizer, c'est qui est responsable?
C'est peut-être la faute à personne. Hein. Écoute, il y a eu beaucoup de théâtre politique là-dessus parce qu'on sait que M. Trudeau, il n'a pas une capacité naturelle à prendre des décisions rapides, mais quand c'est le temps de blâmer les provinces, il aime ça faire ça. Il s'en est pas privé il y a quelques semaines en disant qu'il préférait boire des vaccins dans le bras plutôt que dans le frigo. Mmh. C'est un beau slogan. Mais le problème, c'est que les provinces vaccinaient à peu près ce qu'il y avait à mesure, moins les délais pour transporter les vaccins à ceux qui étaient destinés, parce qu'on sait qu'à cause de la réfrigération, la manipulation est compliquée. Puis, ben, le Canada, c'est un grand pays, puis le Québec est beaucoup plus grand que la France, par exemple, que des petits pays comme Israël. Donc, il y avait des questions de logistique. Et là, ben, il y a l'arroseur est arrosé, c'est-à-dire que les vaccins sont plus rares. Et là, c'est au tour de Québec d'envoyer des flèches à Ottawa en disant que, écoute, arrêtez de nous parler de normes nationales dans les CHSLD, là, puis envoyez-nous des vaccins, puis occupez-vous des aéroports. Et c'est un petit peu le message qu'ont passé M. Legault et M. Dubé là, au cours des derniers jours. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vaccin cette semaine. Il y a des camps. Pfizer est en train de réaménager son usine en Belgique pour augmenter sa production.
Okay.
Et ben à cause de ça, il est obligé d'interrompre les livraisons.
Ben écoute, ils ont pas d'autres usines ailleurs, là. Ils ont rien qu'une usine en Belgique. J'imagine qu'ils ont des usines aux États-Unis aussi, là, où ils fabriquent des vaccins, Pfizer.
Oui, ils ont différentes installations, mais en tout cas, pour ce qui est ma compréhension, c'est que pour ce vaccin-là, c'est produit en Belgique. Et écoute, ceci dit, c'est pas censé affecter le nombre total de vaccins que le Canada va recevoir d'ici le mois de mars, mais ça va faire que la semaine prochaine, il va y avoir des quantités qui vont être un petit peu plus basses. Évidemment aussi, il y a des pressions de l'Union européenne, vu que des usines qui sont en Europe, donc eux autres aussi veulent leur part de vaccins. Donc, tu as plusieurs pays qui sont en train de tirer la couverte présentement pour avoir le plus de vaccins le plus vite possible. Mais tu sais, si on met ça un peu en perspective, d'abord, la COVID, c'est une maladie qu'on connaissait pas il y a à peine un an. C'est une maladie très contagieuse, très dangereuse, souvent mortelle. Et un an plus tard, on n'a pas juste un vaccin, là, on a plusieurs vaccins, d'autres qui s'en viennent. Mmh. Fait que déjà ça, c'est absolument extraordinaire. Et l'autre chose aussi, c'est que le Canada, malgré tout, là, c'est sûr qu'on a l'exemple d'Israël en tête, là, qui est un pays qui a la population du Québec à peu près. Ils ont déjà vacciné à peu près le quart de leur population. Ça, c'est extraordinaire. En même temps, un, ils ont payé plus cher. Deux, c'est un petit pays. Trois, c'est un pays aussi où l'armée est très présente et donc la logistique, l'armée, c'est des experts en logistique. Le Canada, malgré tout, là, je disais il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de pays qui se sont partagés 95% des doses qui ont été livrées, en tout cas jusqu'à tout récemment. Le Canada est un de ces 10 pays-là.
Okay.
On est quand même pas si pire.
OK, mais c'est vraiment au plus fort de la poche, hein, parce que tu le dis, là, ils ont payé plus cher à Israël, parce que c'est ça, c'est aussi un marché, là, il y a une offre, il y a une demande, puis plus tu as d'argent et plus ton dollar est fort et puissant, plus tu as de chances de passer avant les autres.
Il y a ça, mais il y a aussi tu sais, bon, évidemment, il y a toutes sortes, il y a des ententes qui sont négociées de gré à gré entre les gouvernements et les fabricants. Dans le cas d'Israël aussi, ils ont un système de santé hyper performant puis hyper informatisé. Là, je veux dire, ça marche pas au fax là-bas. Et ils ont, par exemple, ils ont promis... qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Et ils ont proposé à Pfizer pour avoir en échange de meilleur accès au vaccin. Écoutez, on va vous donner des données médicales anonymisé avec lesquels vous allez pouvoir faire de la recherche. Donc ça aussi c'est intéressant. Fait que c'est sûr que c'est un jeu de négociation, puis à la marge, c'est peut-être un pays ou deux là, qui vont réussir à en avoir un peu plus. Mais dans le grand ordre des choses, même si c'est frustrant, même si on voudrait tous être vaccinés demain matin, puis tu sais, faut pas se le cacher, c'est une course contre la montre, hein, parce que on a à peu près 1 million de gens qui ont 70 ans et plus au Québec. Ils sont pas tous dans des CHSLD, des résidences, sont aussi parmi nous. Ça va prendre un certain temps avant que tout le monde soit vacciné. Puis évidemment, toi puis moi, ça va prendre encore plus de temps.
Eh oui, écoute, le couvre-feu, est-ce que ça fonctionne? On voit une diminution de nombre des cas. Est-ce que c'est à cause du confinement? Est-ce que c'est parce que c'est à cause du couvre-feu?
Ben, écoute, les causes sont multiples, sont toujours difficiles un petit peu à départager, mais on va revenir un peu en arrière. La baisse a commencé au tournant de l'année. Et ça, on le voit quand on regarde les tableaux de données là, sur le site de l'Institut national de santé publique, par exemple. Donc, il y a un ralentissement puis un plafonnement là, à peu près autour du jour de l'an puis un petit peu après. Donc, le 9 janvier, le samedi soir, quand le couvre-feu a été déclaré, la baisse était déjà amorcée depuis quelques jours. Fait que ça avait commencé avant. Pourquoi? Vraisemblablement à cause du congé des fêtes, la fermeture des écoles, le fait qu'un paquet de gens se sont trouvés en congé aussi, qu'il y a plusieurs secteurs d'activité qui ont été au ralenti. Ça, c'est le premier facteur. Après ça, le 10 au matin, le lendemain du couvre-feu, le virus n'a pas cessé son chemin. Il y a un paquet de gens qui ont été contaminés, qui ne savent pas encore, puis qui vont être infectés au cours des prochains jours. Il y en a qui vont développer des symptômes, d'autres non. Après ça, il va y avoir des contacts. Bref, ils vont le temps de passer un test, puis que les cas soient rapportés et déclarés officiellement. Il peut se passer peut-être un 7 à 10 jours, c'est avant que ça se reflète dans les données. Donc, on est rendu là, au moins au 16 janvier, puis peut-être un petit peu après. Quand le jeudi dernier, on était le 21, le premier ministre et Dr Arruda se donnaient des tapes dans le dos pour dire « Hey, c'est fantastique, le couvre-feu fonctionne ». On est le 21 janvier, donc on fonctionne avec les chiffres du 20. Et dans le meilleur des cas, ça fait 3 ou 4 jours qu'on peut peut-être sentir l'effet du couvre-feu s'il y en a un. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que la cause principale de la baisse des cas, c'était pas ça. Ceci dit, maintenant, une semaine plus tard, c'est sûr que ça nuit pas. T'sais, ça facilite le travail des policiers, par exemple. Les tricheurs sont un petit peu plus visibles. Moi, je pense aussi qu'il y a un effet psychologique, c'est-à-dire que ça réveille un peu de se dire, hey, écoutez, vous avez plus le droit de sortir de chez vous, tellement la situation est grave. Possible que ça a joué, mais de départager ça des autres facteurs, c'est assez difficile. Bref, la baisse avait définitivement commencé avant. Ça veut pas dire que ça va nuire, mais c'est certainement pas la cause principale.
Et quand est-ce qu'on déconfine? Quand est-ce qu'on va pouvoir retourner au gym, au restaurant? C'est pas demain la veille.
Non, écoute, je crois, en tout cas, faudrait pas, parce que sinon on va commencer à jouer au yo-yo. Puis, à chaque fois que je dis ça, faut que je rajoute un petit disclaimer en bon français que, moi, le confinement, là, ça m'horripile. C'est un aveu d'échec. On n'aurait jamais dû se rendre là. Certainement pas une seconde fois, mais à un moment donné, il faut prendre la situation épidémiologique telle qu'elle est. Bon, M. Legault, ceci dit, a évoqué la possibilité d'alléger les restrictions dans certaines régions. Où ça pourrait être? Au Québec, on a 3 régions qui sont statistiquement dans le vert, là, en dehors du nord de la province. C'est la Côte-Nord, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent. On est à peu près à 1 cas par semaine. Le Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas eu de cas hier. Alors, on a 3 régions dans le jaune, l'Abitibi, l'Outaouais, le Saguenay. Fait que c'est sûr, les gens voient ça et disent, hey, nous autres, on est dans le vert, on est dans le jaune, on pourrait recommencer à faire nos activités. Tu sais, juste pour donner un exemple, le Saguenay, là, t'as 10 à 20 cas par jour ces temps-ci, là. T'as une population de peut-être un petit peu moins de 300 000 habitants. Brisbane, en Australie, il y a quelques semaines. C'est une ville de 2 millions d'habitants. Ils ont trouvé un cas au début janvier. Ils ont fait un confinement 3 jours.
Et ils niaisent pas, eux autres.
Non, c'est un petit peu intense, mais quand tu regardes le bilan de l'Australie, tu sais, tu comprends. Fait que tout a été fermé sauf l'essentiel et, bon, on n'a pas trouvé d'autres cas. Fait qu'au bout de 3 jours, qu'est-ce qu'on dit? Tout le monde remet des masques pendant 2 semaines. On a fait ça pour un cas.
Un cas, écoute.
fait que c'est, mais sauf que le bilan est parlant. T'sais, un autre exemple, la Corée du Sud, il y a un peu plus de cas ces temps-ci, tu sais. Ils sont autour de 500 cas par jour, là, pour 51 millions d'habitants. Donc, c'est comme si au Québec, présentement, on avait 70 cas par jour. Et on n'a pas 70 cas par jour au Québec. On est autour de, on a eu 1200, là, mais en tout cas, mettons pour la dernière semaine, on est en moyenne autour de 1500. Ben. Les gyms sont fermés, les bars et les restaurants ferment plus tôt, les écoles sont partiellement ouvertes, qui avaient d'ailleurs été fermées en décembre parce que c'était considéré comme un lieu d'éclosion, et c'est pas parce que l'éducation est pas importante en Corée, si on sait que c'est un pays qui est hyper performant sur le plan scolaire, mais ça montre que si tu veux garder l'épidémie sous contrôle, faut que tu fasses attention, et ce qui nous fait très très mal au Québec, c'est que notre traçage en particulier est déficient, ce qui fait que...
Ça se fait longtemps qu'on le dit, ça, en plus.
Ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on le sait, et je sais pas si le gouvernement a un petit peu abandonné là-dessus en se disant, écoute, la machine est trop lourde, il n'y a juste rien à faire. Moi, si j'avais été Monsieur Legault tout l'automne, à la place d'apparaître avec des masques qui sont faits à tel endroit au Québec, je serais apparu avec l'application de traçage, je installer ça, ça va sauver des vies.
Non, c'est le confinement, la vaccination, on oublie le troisième qui est le traçage. On dirait qu'on l'a laissé totalement tomber, abandonné. Donc, rapidement, Patrick, c'est pas le 8 février qu'on va commencer à retrouver notre vie. De toute façon, ça serait pas bon, ça serait de jouer au yo-yo. On va ouvrir, on va fermer, on va ouvrir, on va fermer. Ça n'a pas d'allure.
Moi, ce que je dirais, là, si on veut là, que ça aille plus vite, là, faut qu'on prenne tous les outils qu'on a. Et il y en a un qu'on doit absolument utiliser, c'est les tests rapides. Là, il y a enfin un projet pilote dans une école de Montréal-Nord. Là. Juste pour rappeler, les tests rapides, ça permet d'éviter le traçage, parce que tu peux tracer toute une population là, dans un lieu en particulier ou dans un quartier très rapidement. Et dire à ces gens-là de s'isoler plutôt que de fermer là une partie de la ville au complet, ou en tout cas toute la province. On est au-dessus de 2 millions de tests rapides qui dorment.
Ben,
1 million qui dorment depuis la fin octobre.
C'est scandaleux.
Il est temps qu'on s'en serve.
Ça n'a pas l'allure. On chiale là, contre, à juste titre, là, contre Justin Trudeau, là, qui est deux pieds dans la même bottine. Là, puis mais au provincial aussi, on est deux pieds dans la même bottine, parce que ces tests rapides-là, ils dorment, puis on les utilise pas, puis c'est scandaleux. Merci beaucoup, Patrick Derry. Puis je le dis, là, il faut le suivre sur Twitter. Je sais que vous suivez d'autres scientifiques comme les frères Tadros. Très intéressant, leurs analyses de la situation, mais je vous encourage surtout.
C'est plus drôle que moi.
Oui. À suivre Patrick Derry, analyste en politique publique. Merci, Patrick. Salut.
Bonne journée.